conçus pour être présentés en ligne, et il y en a d'autres qui sont des performances audiovisuelles ou différents médiums qui ont été pensés pour une présentation dans l'espace physique qui se retrouvent en ligne. Donc la programmation se fait de façon assez organique. MeTech a un appel à projet qui est lancé vers la fin de l'automne, début de l'année, à chaque année. Donc cet appel-là est ouvert aux œuvres de tout format, incluant les formats pour présentation, conçus pour présentation sur le web. Donc, il y a certaines œuvres de l'expo qui sont issues de cet appel-là. Donc, on regarde les soumissions, puis on retient celles qui fit avec notre thème. Autrement, il y a l'équipe de programmation qui fait ses propres recherches. Il y a aussi des gens, des artistes de la communauté qui nous soumettent des projets hors appel ou des choses qu'on sait qui sont en développement puis qu'on garde à l'œil. Donc, c'est vraiment très organique cette année. Il y a même Kirubel qui est coordonnateur du marketing numérique qui a suggéré à un artiste qui avait vu passer sur Twitter de proposer son œuvre. Puis c'est une œuvre de Nelson Corner Safrata qui se retrouve en fait dans l'exposition. Donc c'est vraiment un processus difficile à prévoir, mais
Mais
qui se construit collectivement, là.
c'est aussi comme ça pour le volet musical, hein. On s'entend, c'est un vrai travail de défrichage. Merci. J'ai quand même du mal avec mes mots, là. C'est peut-être la chaleur, mais de MuTech. Et donc, en fait, ça se retranscrit aussi pour la partie art visuel, finalement.
Tout à fait, ouais. C'est un peu de tout, un peu. Il faut être partout à la fois, puis être à l'écoute aussi des projets des gens, des artistes avec qui
Ça,
on
c'est
travaille.
le plus gros défi, d'être disponible pour ne pas laisser passer les pépites. Comment, justement, est-ce que vous avez remarqué peut-être une évolution dans les soumissions en art visuel, dans l'appel? Est-ce que c'est comme ça augmente ou au contraire, ça reste constant
Disons, c'est vraiment une bonne question. Dans les soumissions de l'appel, c'est sûr que MuTech, maintenant qu'on a une exposition depuis plusieurs années, c'est l'appel à soumission accueille ça, puis on le précise dans l'appel aussi. Donc forcément, les artistes savent que c'est une option pour diffuser leur travail. Donc oui, ça commence à être un peu plus connu. Ouais, c'est
Ça
sûr que
finit
dès le
par se savoir
départ.
dans le milieu aussi. Puis bon, comme on répète, là, on laisse le but du festival, de la programmation, c'est de laisser aussi sa chance, là, comme vous entendiez juste avant, Alex qui embarque avec son live, qu'elle joue qu'une fois à chaque fois, quoi. Là, tu disais, il y a des artistes un peu de calibre différent, même si on aime pas parler de calibre pour des artistes, là, mais c'est un peu. Je suis désolée d'avoir dit
Ouais, c'est
ça, là,
plutôt pour
c'était
des
comme
arts.
sorti toute seule, mais bon. Et donc, oui, le but, c'est aussi d'être une plateforme, finalement, de découvrabilité, puis d'exposition, oui, c'est l'exposition pour les artistes.
Ouais, exactement.
Dans justement ces 12 œuvres, est-ce qu'il y en a une dont tu voudrais vraiment nous parler, je sais pas, son histoire, son origine, son rendu, que tu pourrais nous en dire un peu plus, ou plusieurs, hein?
Ou plusieurs, oui.
Ouais.
En fait, je peux peut-être parler de la thématique. Je pense que tu as posé la question plus tôt. J'ai répondu à tout sauf à ça,
Ah
donc
oui, c'est juste.
je vais me
Hey,
lancer.
heureusement que tu suis là, parce que moi j'ai passé au travers.
L'exposition, d'abord, information importante, elle s'appelle État d'existence ou States of Existence en anglais. Donc,
Tout en légèreté.
tout en légèreté, voilà. Mais pas qu'il y a des œuvres hyper critiques, hyper. Et qui portent qui ont des positions vraiment provocatives, parfois tranchantes. Donc, c'est pas que en légèreté. Je pense que les œuvres ont en commun de traiter des questions d'identité, de représentation de soi, mais aussi d'effacement puis de visibilité. Donc, ce sont des thématiques vraiment présentes dans l'exposition, puis c'est ça qu'on essaie de transmettre à travers le thème. Donc, c'est sûr que les œuvres abordent ces thèmes-là, ces questions-là, de façon différente. Mais l'idée de représentation de soi est quand même le fil conducteur de tout ça. Il y a une artiste comme Marion Schneider qui utilise une banque de selfies, puis elle entraîne un algorithme pour générer d'autres selfies à partir de ces images-là. Donc,
C'est quoi
vraiment,
une banque de selfies?
une banque de selfies, c'est
C'est
500
comme.
selfies que l'artiste a
Qu'elle
prises.
a collecté.
Ouais,
Ok,
tout à
ok. Il
fait.
n'y a pas des banques de selfies en ligne.
Non,
C'était
non,
comme.
non, non,
Oh mon Dieu! J'ai.
c'est une banque de selfies
C'est
que
elle qui
l'artiste
a.
a fait.
Ouais, ok.
Voilà.
Ah, et pour ensuite servir de matière première, on va dire, pour son algorithme.
Exactement, exactement. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment littéral, c'est vraiment une représentation de soi traditionnelle. Il y a d'autres artistes comme Maze Longboat, qui est un artiste qui présente un jeu vidéo dans l'expo. Puis Maze, c'est un jeu de vidéo où les avatars, les personnages sont un peu basés sur sa propre personne, sa propre histoire, son récit personnel. Donc encore une fois, la présence d'identité dans tout ça. Puis, de façon très évidente, il y a un autre artiste, Jean Baron Lantin, son nom d'artiste, c'est Baron Lantin, qui utilise vraiment un scan de sa main, puis qui digitalise, puis il incorpore toutes sortes d'effets sur son image. Donc, c'est vraiment des représentations qui sont, dans son cas, vraiment distorsionnées, augmentées, même hybridées avec un téléphone, avec la technologie. Donc, c'est vraiment à propos de la matérialité puis de l'hyperconnectivité aussi.
Okay.
Donc voilà. Ça,
ok, c'est vraiment comme des horizons différents et variés. Justement, c'est intéressant ce que tu disais, parce qu'on a des formats aussi, finalement, c'est quand même en ligne, mais on a des formats jeux vidéo, d'autres formats. Donc c'est aussi varié dans le format numérique.
Ouais, tout à fait. Donc, y a des vidéos qui peuvent, on se le dira, qui peuvent aussi être présentées en espace physique. Donc, ça convient à toutes les dimensions, disons. Mais il y a des œuvres vraiment spécifiquement conçues pour le web, certains jeux en ligne, certaines expériences web interactives. Puis, en fait, elles ont en commun aussi ces expériences-là de ne pas nécessairement utiliser des outils et des interfaces qui sont déjà existantes, mais de les s'approprier vraiment, d'essayer d'agir sur le contexte de présentation, puis d'injecter un peu d'eux-mêmes, de vraiment moduler les outils pour vraiment qu'ils sont à la fois mieux dans ces espaces-là, puis plus représentés. Donc, on a même en fait une œuvre de Nancy Lee et Kieran Bumber, qui sont deux artistes basés sur la West Coast, qui sont celles-là hébergées dans Satellite, qui est un environnement virtuel conçu par la SAD.
Ah oui, c'est juste qu'ils ont commencé il y a quelques mois, en début d'année, hein, au printemps.
Ouais. En fait, elles ont fait une résidence à la SAD pour travailler là-dessus, mais c'est une exposition qui, à la base, était une installation dans l'espace physique, qui a été virtualisée. Donc là, il s'agit vraiment d'un monde là, qu'elles ont créé en 3D dans lequel on peut évoluer. Donc, il y a vraiment de tous les formats.
C'est vraiment intéressant. Je vois, France, que tu hoches la tête, là. C'est comme, il y a des noms, là, que tu connais, qui ressortent. T'es aussi familière par rapport à ce type d'œuvre qu'on consulte en ligne.
Oui, un petit peu plus depuis un bout, oui.
On va en parler aussi juste après avec ton travail. L'exposition est disponible en ligne, donc sans courriel. Vous n'êtes plus obligé de donner votre sang pour accéder au contenu, mais c'est toujours la même URL, donc c'est parfait, virtual.mutech.org. Puis elle est disponible du 9 août au 9 septembre, donc pendant un mois. Donc vous avez largement le temps d'aller naviguer. Puis je pense que c'est aussi le type de contenu qui est bien de consulter plusieurs fois. D'y aller une fois, parce que c'est aussi c'est un peu comme une expo, c'est toujours bien de voir une exposition en personne plusieurs fois. Pas souvent l'occasion, parce qu'il faut y aller. Là. Mais là, en ligne, c'est vraiment... Ça s'y prête, parce que selon l'humeur, le contexte, le moment de la journée, etc., on peut aussi avoir des expériences différentes et puis être plus ou moins attentif. Aussi.
Tout à fait. Puis même, il y a des œuvres génératives qui ne sont jamais les mêmes nécessairement quand ils retournent. Donc, c'est bien de les expérimenter plus d'une fois.
Ouais. Exactement. Donc, voilà, un volet en ligne cette année pour l'exposition, mais qu'on vous invite à découvrir avant le début du festival et même jusque après fin du festival. Donc vous avez un mois pour y aller, virtual.mutech.org. Merci beaucoup, Sarah-Ève.
Ça m'a fait plaisir, merci.
On va continuer en musique avant de poursuivre avec notre tout dernier segment de l'émission dédiée à collection immersive. On va s'écouter de la techno. Hein, parce que tout le monde devrait écouter la techno, ça fait du bien à tout le monde. Donc on s'écoute Nicolas Bougaïef tout de suite et on se retrouve juste après. Et nous voici de retour avec, avec la musique Wheelie de Nicolas Bougaïev, Daybreak. Je pense que je n'avais pas donné le titre de sa track. J'étais trop excitée par le fait d'écouter de la techno. Désolée. J'espère que vous avez apprécié. En plus, on profite de cette émission spéciale pour écouter les musiques en entier. Et ça, j'aime vraiment beaucoup, ce qui n'est pas toujours possible à la radio. On est en direct des studios de CKUT 90.3 FM à Montréal et on va entamer là le dernier segment, le tout dernier segment de l'émission spéciale pour parler d'un gros projet là, c'est un gros bébé là. Hein, en plus, au moment où on enregistre l'émission là, c'est chaud, c'est vraiment tout chaud dans le sens ça vient d'être annoncé là, ça vient de sortir. Je suis autour de la table donc Lola Baraldi et France Jobin. Qui sont venus nous parler de ce beau projet qu'est Collection Immersive. J'ai vraiment... De toute façon, si je dis Immersive Collection, ça va. Au pire du pire. Bon, c'est comme je suis...
Immersion collective, ça
Immersion
marche aussi.
Collective. Ouais. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Lola, toi, on va commencer avec toi, en fait, parce que toi, tu fais partie de l'équipe de Mutech, et puis tu es un peu la pilote... du projet. Après 23 ans d'existence de festival, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de discussions en interne avant de sortir un projet comme celui-ci. Collection Immersive, c'est une production d'œuvres XR par Mutech. Est-ce
Exactement.
Que c'est bien ça? Ok. Comment ça veut dire quoi, produire des œuvres XR?
J'en apprends tous les jours un peu plus sur cette question. Mais ouais, c'est le premier projet vraiment de production de Mutech pour des œuvres en réalité virtuelle. Donc,
c'est que de la VR.
C'est que de la VR.
Okay.
Donc, c'est trois œuvres en VR qui sont créées par...
Quand je dis que, c'est pas... je veux pas minimiser. Hein.
Mais, on n'est pas encore à la réalité augmentée.
Ouais, bon, c'est ça.
On pourra s'y rendre gentiment, hein, France.
Doucement.
Mais oui, ce sont trois contenus en réalité virtuelle qui ont été créés. Donc, on a cinq artistes en total sur le projet. Donc, il y a deux projets avec deux artistes, puis un projet avec une artiste, Lynn Catchow, un projet avec France Jobin, qui est ici, et Marcus Ekman, qui est basé à Toronto, et un projet avec Chloé Alexander Thompson, qui est écrite et canadienne, basée aux US, et Matthew Edwards, qui est basé aux US aussi. Donc, ils ont tous trois réadapté des performances données... réinventer plutôt des performances données par le passé à Mutech en contenu plus petit qui épouse vraiment le format de
D'accord.
la réalité virtuelle.
J'ai deux questions. La première, est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu de ton micro ?
Oui, pardon.
Merci. Puis la deuxième, c'est plus en lien avec ce que tu viens de dire. pourquoi ça s'inscrit dans la continuité du mandat de Mutech de produire des œuvres de réalité virtuelle ?
C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a définitivement un momentum qui a été créé. La XR, c'est vraiment un terrain où se rejoignent plusieurs
Voilà, juste la XR, là, si tu ouais. peux juste redire pour les gens qui nous écoutent, ça inclut...
Donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc c'est un terme qui définit la réalité étendue.
Voilà.
Ouais.
Donc c'est plus qu'on va appeler XR, pour ceux et celles qui sont moins familiers et familières que nous.
Effectivement. Et oui, mais comme domaine, je pense que c'est un terrain où se rejoignent plusieurs branches différentes de Mutech. On a parlé du festival, puis de l'aspect créatif et musical tantôt. On a aussi parlé du volet professionnel et du forum. Et Mutech est très impliqué dans l'industrie de la XR depuis 2015, depuis la première année où la XR a été intégrée à la programmation du volet professionnel. Depuis, ça revient chaque année avec le salon XR, donc avec des conférences, des ateliers et aussi des expositions où on accueille des œuvres en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Mais je pense que ça fait aussi partie d'une volonté de diversifier la manière dont on travaille avec les artistes et de trouver des nouvelles manières de collaborer avec les artistes et d'être plus impliqué avec les projets dès le début et que la relation avec l'artiste et avec le projet ne se termine pas que quand le festival se termine.
Ouais, C'est bien ça, parce que les fins de festival, c'est pas marrant. Alors justement, on va profiter d'avoir France Jobin autour de la table. Qu'est-ce que ça représente comme opportunité pour un ou une artiste, justement, de collaborer avec MUTEC, qui est un festival, mais pour produire et créer une œuvre en réalité virtuelle?
Ça, je pourrais te répondre en deux points. Premièrement, je crois que je peux parler pour nous tous, les cinq artistes. Je ne crois pas qu'on aurait été capable de s'aventurer là-dedans sans le soutien de MUTEC et Lola et Katrina, plus précisément, parce que on est vraiment dans le Wild West. Ce sont des outils qu'on ne connaissait pas.
Okay.
C'est un contexte qu'on ne connaissait pas non plus.
Ouais, d'accord, mais alors ça veut dire que... Est-ce que c'est quelque chose, toi, en tant qu'artiste, parce que tu es quand même une artiste établie, là, puis tu as déjà, je pense, expérimenté aussi plusieurs types de projets. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, est-ce que c'est grâce à cette opportunité que tu t'es lancée, ou est-ce que c'est quelque chose, de toute façon, là, que tu avais dans un coin de ta tête, et puis...
Non, c'était pas quelque chose que j'avais en tête du tout. Mais en tant qu'artiste, t'es toujours, un défi, c'est toujours bienvenu.
Ah.
Pour moi, anyway. Moi, ma grosse peur, c'est la stagnation. Donc, quand on m'apporte quelque chose que je ne connais pas, là, je suis super heureuse parce que je sais que je vais apprendre quelque chose. Fait que c'est sûr que j'embarque.
Donc là, toi, c'était la première fois que tu créais une œuvre XR?
Oui.
Et alors, oui. Alors, donc, on disait, là, c'est l'annonce a été faite... c'est aujourd'hui ou hier? Parce que les journées sont longues.
Hier.
Ça va, c'est quand même, parce que c'est quand même une nouvelle corde à ton arc. Et puis, ça fait quoi d'avoir cette opportunité, d'avoir créé cette œuvre?
C'est vraiment extraordinaire parce que ça t'envoie dans d'autres univers que tu n'aurais pas considéré.
Ouais, vraiment.
Donc, parce que premièrement, le contexte de la réalité virtuelle, tu n'es pas devant un public où est-ce que tu as vraiment... ce contact avec le public lorsque tu fais une performance, tu dois vraiment penser l'œuvre vraiment là, pas plus gros que ta tête parce que tu vas avoir un oculus et that's it, t'sais. Donc, c'est une nouvelle manière de penser, c'est une nouvelle manière de présenter du visuel. Je sais que pour Marcus, qui est très expérimenté...
Qui est ton binôme sur l'œuvre, puis qui est un artiste avec qui tu as l'habitude de collaborer aussi.
Oui, depuis 2019. Et même pour Marcus, je veux dire, il a découvert des trucs avec son logiciel qu'il ne connaissait pas à cause de ce projet-là.
Ah ouais.
Parce que ça l'a poussé à fouiller.
Pourtant...
Exact, c'est ça.
Il s'y connaît en logiciel.
Oui, exactement, exactement. Alors, tu vois, quand un artiste comme Marcus... Okay. Se dit « Wow, je viens de découvrir quelque chose que je n'avais jamais vu avec Touch Design. »
Alors, Lola, quand tu entends un témoignage comme celui-ci, c'était ça l'objectif de MUTEC?
Ça a toujours fait partie du mandat de MUTEC d'accompagner les artistes au fil des itérations différentes et des développements de la technologie. C'est une des raisons pour laquelle on accueille beaucoup d'artistes qui reviennent au festival année après année avec des nouveaux projets. Et je pense qu'il y a un accompagnement aussi créative pour les pousser à revenir avec des nouveaux outils de création. C'est sûr que au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte à quel point on les avait embarqués dans un défi technique et pas seulement un défi créatif.
Vous inclus.
Nous inclus, parce que c'était un apprentissage pour nous aussi. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour la persévérance. Je sais que c'est... Même pour pouvoir créer librement quand on s'enfreint à tant de détails techniques, parce que c'est très compliqué de pouvoir travailler sur les engins de développement de jeux vidéo ou les outils qui permettent de visualiser en réalité virtuelle. Il y a plein de nouvelles considérations. Je me suis retrouvée dans beaucoup de réunions où je ne comprenais absolument rien, mais j'avais l'impression que ça avançait. Et de notre bord aussi, ce sont des nouvelles plateformes de diffusion.
C'est un projet de combien de temps, là? Ça m'a l'air... J'ai l'impression que c'était assez court, non?
On a commencé en octobre.
Ouais.
On a commencé en octobre. Et puis...
On devait finir en mars. C'est vrai. Non, mais c'est la réalité là, de ce que ça représente comme investissement humain et mental aussi, de lancer un projet comme celui-ci. Ah ouais.
Mais on a tous, je pense, on est liés par le fait qu'on a énormément appris.
Ok.
Ouais. Okay. Vraiment parallèlement, ça c'était vraiment génial. Parce que je crois des deux côtés, du côté des artistes et du côté de MUTEC, on sentait très bien qu'on était tous les deux sur une pente...
Ouais, vous avanciez en même temps, là.
En même temps, puis c'était compliqué. pour des raisons différentes, mais je veux dire, c'était compliqué pour Mutech et compliqué pour nous aussi.
Ben oui, je pense que c'était aussi un des défis, que peut-être pour, une des raisons pour lesquelles Mutech ne s'était pas encore aventuré dans cette expérience, c'était aussi ça, là. C'est tous les défis que vous avez rencontrés. Mais bon, aujourd'hui, les AVE n'ont pas encore rencontré le public. Ben, si, il y a certaines personnes qui peuvent y accéder s'ils ont un casque. Mais
encore.
Bon.
Donc elles sont, on peut les sauvegarder dans la liste de souhaits de Steam, ce que je vous encourage à faire.
Ça n'a pas été encore exposé au public, mais là, Mutech, c'est quoi le feeling, le sentiment par rapport au projet aujourd'hui ? Est-ce qu'on a un sentiment d'avoir réussi, là, d'avoir accompli l'objectif, d'avoir atteint l'objectif ?
Absolument, et on est très, très surpris du résultat aussi.
On ne s'attendait pas à ce que ce soit si bien.
Moi, je pense que je suis assez surprise par le fait, on en parlait tout à l'heure avec France, que les œuvres sont vraiment, sont radicalement différentes, mais on retrouve une certaine cohésion, plus peut-être dans la qualité des contenus ou au feeling que, bien sûr, le genre. Chacune a vraiment un ADN différent, mais oui. Et puis, on a été surprise de voir qu'au final, ça a été réinventé presque c'est presque des nouveaux contenus. Il y a une présence de la performance originale, mais le médium est tellement différent et les outils de création sont tellement différents que ça, ça les a poussés à chercher des nouveaux angles dans ce projet original.
Toi, France, tu as participé comme à la programmation musicale du festival, le visuel, enfin en live AV. Par le passé.
Ouais.
Là, cette année, tu es concentrée c'est pas réducteur, là. Tu es concentrée sur
ce gros bébé-là qui est le VR. Ouais.
Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, c'est quoi qu'est-ce qu'on va voir dans cette œuvre On va dire, allez, en quelques mots, là.
Ouais, en quelques mots, on vous présente Entanglement AV, qui est basé sur un phénomène assez bizarre en physique quantique. Et la pandémie, le mot qu'on ne veut pas dire, m'a permis, moi, de m'asseoir et d'étudier pendant 2 ans. Et à ce moment-là, j'ai contacté Marcus. Et l'œuvre que vous allez voir, c'est vraiment notre interprétation de 4 concepts. Théorie qui supporte plutôt ce concept-là, ce phénomène-là.
D'accord.
Et donc, ça, c'est très abstrait. C'est vraiment une œuvre dans laquelle on veut que les gens se perdent complètement et qu'ils perdent tous leurs repères.
OK. On se laisse vraiment emporter.
Oui, on se laisse emporter.
On n'essaye pas d'interpréter ce qu'on est en train de voir.
On laisse faire, puis l'interprétation va se faire dépendamment de chaque personne et avec leur base de référence.
Ok. Ça dure combien de temps?
15 minutes, pour être exact, 16 minutes et 9 secondes.
16 minutes, 9 secondes, on aime les précisions.
Ouais.
Comment on décide de la durée d'une œuvre?
Très tôt, Marcus et moi, on a décidé de ne pas se laisser définir par le temps. Et ce qui est d'ailleurs un des trucs qu'on gère, une des théories, c'est que l'écoulement du temps n'existe pas en physique quantique. Alors, comment produire une œuvre qui, elle, est basée sur l'écoulement du temps quand l'écoulement du temps n'existe pas? Alors, voilà, de se perdre dans l'œuvre. Mais on a établi des choses assez rapidement. Marcus et moi, on travaille super bien ensemble. Puis on a la même philosophie, bien. Donc c'est très facile. Et déjà au départ, c'était pour nous une œuvre d'art. C'était pas... On considérait que ce qu'on allait créer, c'est une œuvre d'art.
Et c'est important, comme précision. Parce que c'est vrai qu'en réalité virtuelle, on a beaucoup de divertissement, on a des jeux, on peut aller en vacances, il y a du porn, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses en VR. Mmh. Là, on parle bien de production d'œuvres d'art. C'est vraiment important d'insister là-dessus. Donc, il peut y avoir un scénario, il peut y avoir une histoire, mais ça reste que c'est une œuvre. Donc, on va pas vous emmener dans un jeu avec des paliers. Puis des donc c'est important que tu le précises, parce que ces œuvres vont être présentées pendant le festival, le but c'est aussi d'aller à la rencontre du public. On sait très bien que c'est une industrie qui a sa communauté, puis c'est son public, mais c'est aussi des technologies qui se... de popularise, démocratise. Tu parlais des casques Oculus, tout ça. Là, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui enfin beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui s'équipent et puis qui expérimentent. Je veux dire, c'était un trend sur les réseaux sociaux pendant la pandémie parce que les gens se cassaient littéralement la figure, tombaient dans chez eux parce qu'ils sont vraiment pas l'habitude et qu'il y avait vraiment des gens qui se blessaient parce qu'ils faisaient ça en famille. Puis c'était vraiment des gens qui découvraient. Puis donc voilà. Et donc le but là, c'est aussi d'aller rejoindre un public et de rendre ces œuvres disponibles à la consultation pendant le festival, qui est un moment où normalement il devrait y avoir beaucoup de monde là. Donc quand est-ce qu'on pourra voir ces œuvres, et quand et comment et pourquoi et ça coûte combien?
C'est gratuit. Bah, on sait que c'est pas non plus le milieu le plus accessible non plus, et c'est un des défis de la distribution, le fait que on s'adresse aux propriétaires de casques. Donc en parallèle, on l'offre gratuitement au festival. Ça sera à partir du 23 août jusqu'au 28 août, donc pendant les dates du festival, à l'Esplanade Tranquille, à l'intérieur, donc juste à côté de notre scène extérieure, mais à l'étage de l'Esplanade Tranquille.
Ah oui, il y a comme... d'accord, j'ai vu. Il y a des restaurants là aussi, au rez-de-chaussée, non? C'est à l'étage de ça?
C'est à l'étage, exactement. Donc on rentre dans le bâtiment à côté de la grande place Esplanade Tranquille. On monte à l'étage et on va tout droit à gauche et on se retrouvera trois univers.
Ouais, donc ce dont on parle là, c'est vraiment au cœur du quartier des spectacles à Montréal. Mais moi, j'avais vu que que les œuvres étaient disponibles à l'Esplanade Tranquille. J'étais là, ils vont rendre les œuvres disponibles en extérieur. Ça va être un gros défi, mais non, vous faites quand même ça à l'intérieur.
Oui, absolument. Okay. Et elles seront aussi disponibles donc sur les plateformes de distribution de principalement. Qui héberge principalement des jeux, mais pas que, en ligne, dont la première plateforme, ça sera Steam.
Okay.
Donc les pages existent déjà sur Steam, puis on s'en vient sur les autres.
Donc en fait, là, si on a un casque, on cherche les œuvres, et puis on devrait pouvoir bientôt. Elles seront disponibles quand en ligne? Ça, c'est...
En octobre.
En octobre.
Ok, on laisse la primeur à l'événement. Exactement. Et on profite du festival. J'ai cru voir que vous alliez aussi être présent, que les œuvres allaient être aussi présentes au FME ?
Oui, exactement, gratuitement également. Et ça sera juste après MUTEC. Donc pour les personnes qui n'auront pas l'occasion de les voir pendant MUTEC, elles pourront le voir au Jardin VR.
C'est un petit détour pour ceux qui sont à Montréal. Ouais. Mais donc le FME, le Festival des musiques émergentes, qui est en Abitibi à Rouyn-Noranda, et qui a lieu vraiment la fin de semaine juste après MUTEC, il me semble. Parce que je pense qu'en général, quand on travaille à MUTEC, on aimerait bien y aller, mais on est trop brûlés. Donc on peut pas. Ok, donc tout ça sera disponible gratuitement. Est-ce que c'est justement une volonté de rendre ces œuvres accessibles à tout le monde?
Le plus possible, oui.
Ok, ouais. D'accord.
Après, ça
revient... Bon, après, vous allez essayer de faire du cash quand même.
C'est pour ça que j'ai mentionné Steam 3 fois depuis le début de l'émission.
Ok, mais là, j'imagine que c'est un peu prématuré de vous poser cette question, parce que, comme on disait, ça a été genre dévoilé... la veille de la journée de l'enregistrement de cette émission, mais est-ce qu'il y a un espoir de pérenniser là, le projet, et que ce soit quelque chose qui revienne? Parce que je pense qu'il faut le digérer avant de repartir, mais est-ce que l'idée, ce serait que les productions XR de MUTEC restent?
Ça s'appelle la collection immersive, donc c'est un terme qui peut englober plusieurs œuvres. On va déjà terminer celle-là, mais on espère pouvoir faire... voir comment ça marche, puis pourquoi pas faire de futures itérations.
Ok. France, toi, j'imagine aussi que tu dois encore digérer ton accouchement.
Oui.
Mais à chaud comme ça, là, avec Marcus, c'est quelque chose que vous dites, vous avez pris le goût, et puis ça rentrerait dans vos pratiques aussi pour les années à venir?
Je crois que oui, on a déjà plusieurs idées, justement à cause de ce projet-là. Alors, on a des idées d'installation, ça, on y pense sérieusement. Donc, ça va continuer, parce que moi, ça m'a donné l'occasion de fouiller dans l'audio, puis de faire de l'ambisonique, du binaural, puis finalement, l'audio pour le projet, il est 3D. Alors, moi, ça m'a ouvert vraiment tout un univers complètement que je connaissais. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'appliquer ces technologies-là.
Ok. Ça y est, une nouvelle porte est ouverte.
Exact.
C'est parti.
Exact.
Ça rêve, t'es encore avec nous autour de la table. Je vais profiter de ton avis parce qu'on a parlé justement des œuvres de l'exposition tantôt. Qu'est-ce que tu penses? Évidemment que j'imagine que tu trouves que c'est une bonne idée, mais justement le fait que Mutech devienne producteur d'œuvres XR, toi qui justement connais aussi les œuvres d'art numérique, tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque?
Je pense que c'est vraiment une excellente idée. Ça fait vraiment. C'est en continuité avec ce que Mutech fait. C'est aussi une intention. Mutech a lancé la résidence Avatar avec le centre d'artistes Avatar à Québec. Donc, c'est une intention qui se transmet de plusieurs façons d'accompagner les artistes plus tôt dans leur projet. Puis, je pense que c'est une des initiatives dont sert pour le faire.
Oui, parce que j'ai l'impression que...
Si votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de 5 mois, c'est le moment d'aller chercher une nouvelle dose. Faire le plein d'anticorps permet de réduire le risque d'avoir ou de transmettre le virus, en plus de contribuer à diminuer le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19. Pour une meilleure protection contre le virus, prenez rendez-vous au québec.ca/vaccin-COVID et suivez la séquence de vaccination recommandée. La vaccination contre la COVID-19, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
CKUT. Hello out there. You're listening to 90.3 FM, broadcasting out of Montreal, Quebec. This is Harmony Express, coming to you with a very special episode tonight. Tonight, you'll be hearing sounds from artists who will be playing this weekend in our very own city of Montreal for Mutech Festival. So the first hour in particular will be full of music made by artists who are going to be in the festival and are really worth checking out. If you're in Montreal, head to mutech.ca to check out the schedule for many, many different shows that are happening starting today, in fact. Today meaning Tuesday, August 23rd. There's free shows, there's dance parties, there's immersive AV experiences, and pretty much whatever you're interested in, you're going to find something interesting at Mutech. So lots of different music tonight, from Amber CL, Roxy Moore, Planetary Salt Systems, Powder, Koreatown Acid, DJ Plead, and many, many more. I'll be giving out track IDs as the episode goes on, so stay tuned. Always keep it locked to CKUT 90.3.
Thank you. From New York, this is Democracy Now!
The international community should understand that finally high-level Mexican government officials are being held responsible for their involvement in the disappearance of these 43 students, for fabricating evidence, for inventing investigations, and also for doing everything in their power to prevent the students from being found.
Mexico's former attorney general has been arrested. Dozens of soldiers and officers face charges related to the disappearance of 43 students in Ayotzinapa, Mexico, 8 years ago. The charges come just days after a state truth commission said the disappearances are a crime of the state. We'll go to Mexico City for the latest, then to the political crisis in Pakistan, where former Prime Minister Imran Khan is facing anti-terrorism charges as TV stations are barred from airing his speeches live.
I had called to take legal action against them, the police officers and judicial magistrate.